Jacqueline Cullen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une écrivain ayant publié environ une quarantaine d'ouvrages. Vous avez travaillé également sur France Culture où vous avez produit l'émission Les Racines du Ciel. Vous venez donc de publier l'ouvrage Les Jardins des Vertus aux éditions Salvator. Peut-être première question, avant de parler vraiment de cet ouvrage, d'où vous est venu le goût pour l'écriture et puis aussi pour les mythologies grecques ou en tout cas de l'Antiquité?
Alors, l'écriture, ça remonte à longtemps, mais je ne savais pas que j'allais être écrivain un jour. Et j'ai mis du temps, au bout de 20 ouvrages, je me suis dit, si je peux me dire écrivain. Mais à vrai dire, le premier livre, c'était sur Marie-Madeleine. Et de fait, je pensais que ce serait le seul livre, parce que ce que j'entendais à propos de cette soi-disant pécheresse, et moi, ce que je comprenais, ce que j'étudiais et puis ce que je voyais aussi de cette femme dans les tableaux. C'est une femme magnifique et pas du tout honteuse et pécheresse. Donc je me suis dit, j'ai envie d'écrire pour régler ce compte, si je puis dire, à cette grande Marie-Madeleine. Voilà. Et puis après, il y a eu plein d'autres idées qui sont venues, des thèmes. Un jour, j'ai dressé la liste de tous les thèmes que je voudrais aborder et je me suis dit qu'il faudrait que je vive bien vieille pour arriver à les explorer. Voilà, à vrai dire, quand j'écris, ce n'est pas parce que je connais un sujet, puisque j'écris moi essentiellement des essais, non pas des romans, donc ce n'est pas parce que je connais un sujet, même si j'étudie, c'est pour justement apprendre, étudier et découvrir pourquoi ce thème me questionne. Qu'il s'agit, j'ai écrit sur le sommeil, sur les larmes, sur la passion amoureuse, sur le thème de la solitude, donc je me dis pourquoi ce thème m'interpelle, et c'est comme ça donc que je me mets à chercher, à étudier, à lire et puis après à écrire. Et quant aux mythes, donc les mythes, ce n'est pas du mensonge ou n'importe quoi. Les mythes, ce sont des grands récits qui existent à l'aube de toutes les civilisations du monde. Et ensuite, peut-être qu'ils peuvent se mettre par écrit, mais qui essayent de, non pas expliquer, mais de donner sens à ce que les êtres humains voient. Les premiers êtres humains, bon, ils voient non seulement le jour et la nuit, ils expérimentent hélas la maladie et la mort, ils expérimentent aussi des choses plus joyeuses comme l'amour, l'amitié, les rencontres. Ils se posent la question du mal, de la justice, et puis est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'il y a un dieu, des dieux? D'où vient tout ça? D'où est né le monde? Et donc les mythes, ce sont des grands récits qui parlent de tout cela. Et donc c'est intemporel. Ce ne sont pas des récits scientifiques, mais qui s'adressent à chacun de nous et qui font aussi rêver, imaginer. Alors moi, les grands mythes, moi je les ai rencontrés comme j'ai fait des études de lettres classiques, à savoir j'ai étudié le grec ancien, le latin, l'ancien français, et donc dans notre héritage d'Occident, en particulier la Grèce. Et la Grèce avec, si je cite, je dis Ulysse, si je dis Ajax, je dis Héraclès, ou qui est devenu Hercule, Vénus, etc. Et puis ensuite, dans la littérature médiévale, tout le monde a entendu parler de Tristan et Iseult, par exemple, qui n'a pas entendu parler de Merlin, ou de Perceval, ou de Lancelot. Donc, vous voyez, tous ces grands héros, toutes ces grandes figures mythiques habitent notre imaginaire, notre sensibilité, notre culture, pour presque notre réalité quotidienne. Et encore une fois, peu importe notre éducation, notre milieu social, notre âge, etc., ils sont éternellement vivants. Et c'est ça qui me paraît intéressant. Et contrairement, par exemple, aux religions qui s'appuient sur des dogmes et une doctrine, et ça c'est
Une
le propre
conduite.
d'une religion, autant eux, les mythes sont absolument libres, et que l'on croit au ciel, que l'on n'y croit pas, que l'on soit peu importe notre nationalité, religion ou pas de religion, les mythes s'adressent à ce qu'il y a, j'allais dire, d'éternellement humain en chacun.
Peut-être aussi quelques mots sur France Culture. Le fait de faire de la radio sur des thèmes précis vous permet aussi d'avoir un autre regard aussi sur l'écriture.
Alors, j'allais dire pas du tout, parce que alors déjà, moi j'ai arrêté parce qu'on ne peut pas tout faire, et de toute façon, moi ce n'était pas du tout mon souhait, mon désir de faire de la radio. Même si je suis très contente de cette expérience, je n'avais pas une émission particulière, donc je travaillais pour telle et telle émission, donc c'était soit 5 minutes, soit des émissions de 3 heures, donc c'est ça qui me plaisait, et ce qui me plaît dans la radio, c'est une rencontre. C'est une rencontre et on s'enrichit beaucoup. Moi, c'est ce côté de la relation, une relation vivante, la radio. Maintenant, bon, bien sûr, il y a des choses enregistrées et puis même en vidéo, mais je trouvais que cette parole vivante qui ne se reproduira plus, qui est dans le moment, je trouvais ça très, très, très précieux. Mais d'autre part, je ne sais pas du tout la relation entre justement les thèmes que j'ai pu traiter à la radio, enfin en interviewant d'autres personnes, des spécialistes, etc., et puis ce que j'écrivais. Ça m'est arrivé une seule fois, je crois, j'avais proposé une série, parce que le thème m'enchantait, j'avais proposé une série sur les nuages, et j'avais fait appel aussi bien à un historien de l'art qui me parle des nuages dans la peinture que le thème de la nuée ou du nuage dans la civilisation japonaise ou dans la Bible. Et je trouvais ça tellement fabuleux et ça n'avait jamais été traité. Et donc après, j'ai demandé à ces diverses personnes interviewées, qui elles savaient écrire également, où elles étaient universitaires ou autres. Et donc j'avais demandé en effet si elles voulaient bien participer à cet ouvrage collectif sur les nuages. Donc c'était collectif. Mais moi, si je fais une émission, c'est une chose. De même, si je propose un thème de stage ou de conférence, il n'y a pas de relation avec ce que j'écris. C'est vraiment deux choses différentes. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que la parole orale, que ce soit la parole de tous les jours ou lors d'une conférence ou d'un entretien radiophonique, c'est une particularité, c'est une musique particulière, un moment particulier. L'écriture demande tellement, tellement, tellement de recul, de silence, de réflexion, de lenteur, ça prend un temps fou. Et parce qu'on sait en plus que c'est définitif. La radio, même si c'est précieux, c'est quand même passager, même si on peut réécouter. Alors que l'écriture, on sent que non pas c'est gravé dans le marbre, mais il y a quelque chose de sérieux. Et bon, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas hésiter. Donc il faut dire les choses et écrire les choses le plus clairement possible.
Donc, pour revenir à votre ouvrage, il est découpé en 6 parties plus une conclusion. Donc, vous énumérez finalement ce qu'est l'homme presque aujourd'hui. Peut-être aussi revenir aussi sur une définition de ce qu'est la vertu. Et puis aussi, vous donnez aussi 4 caractères finalement de ce qu'est presque un homme parfait à travers les temps: la force, la prudence, la tempérance, la justice. Des notions peut-être aussi qui aujourd'hui sont un petit peu biaisées. Peut-être quelques mots, pourquoi il est important, peut-être
Oui, vous avez raison, c'est totalement oublié. Et quand on dit vertu, on se dit qu'est-ce que c'est, ou c'est démodé, ou alors ça fait un côté un peu vieillot,
prude,
bon Dieu zard, une personne vertueuse. On ne parle d'ailleurs plus guère de morale, ce terme même de morale a l'air d'avoir disparu, ou alors on dit c'est quelqu'un qui vous donne des leçons, qui moralise, c'est un moralisateur, alors que ça fait partie de l'édification de l'être humain. Une vie morale, c'est ce qui permet, à la naissance, on a un donné de toutes sortes, physique, psychologique, etc. On a des dons, on a des qualités, puis aussi on a des défauts, des faiblesses. Et l'éducation, qu'elle soit familiale ou à l'école, l'éducation est ce qui permet, avec la volonté et la liberté de chacun, bien sûr, de s'améliorer, de se perfectionner, de corriger ses défauts, que ce soit des gros, des graves ou des petits défauts. Bon, par exemple, être impatient, ce n'est pas grave ici, mais on peut faire des choses avec précipitation et c'est mieux de réfléchir, de prendre du temps, par exemple. Et puis, il y a des faiblesses. On a peur, on hésite, etc. Bon, eh bien, travailler pour devenir plus vaillant, courageux, voire audacieux. Donc ça, c'est le béaba pour édifier l'être humain. Et comme depuis quelques décennies déjà, dans nos sociétés très, non pas riches, mais tout de même épanouies, etc., on ne parle que de bonheur, de bien-être, etc.
Presque envie de dire.
C'est comme si on n'avait plus rien à corriger. Donc il me semblait important de rappeler que depuis que l'être humain, enfin sous tous les climats, encore une fois, que l'être humain s'est mis à penser, à réfléchir, à écrire aussi, puis se conduire correctement, quelle est la conduite juste et bonne dans une vie d'être humain. Et c'est ce qu'on appelle les vertus. Les vertus, ça vient d'un terme qui veut dire vigueur. C'est notre puissance intérieure. C'est ce qui signe l'excellence de l'être humain. Donc les vertus, il n'y a aucune obligation, bien sûr, mais être un être humain, devenir un être humain grand, noble, généreux, courageux, ça fait partie, c'est ce qu'on appelle les vertus. Et ça nous est légué par la philosophie grecque. Socrate, Platon, Aristote, donc 4e siècle avant l'ère chrétienne, ont écrit des traités de morale et ils énoncent ces quatre vertus majeures que sont, et puis je vais très vite donner un équivalent, que sont, alors on les énumère dans des ordres différents, peu importe, parce que toutes les quatre sont inséparables et indispensables pour accomplir un être humain, en effet, parfait, pourquoi pas, enfin on peut tendre vers la perfection. Et donc c'est la force qui équivaut, je vais dire, au courage. La force, ce n'est pas la brutalité, ce n'est pas la violence, c'est la fermeté d'âme, c'est la patience aussi, la résistance. Voilà, donc la force intérieure, la prudence, terme peu compris, la prudence, c'est justement le discernement, le recul, la réflexion, la consultation, prendre conseil, c'est apprécier les choses, donc c'est toute cette qualité de vigilance aussi, d'esprit critique. Et puis la tempérance, eh bien, c'est la modération et la mesure, savoir se maîtriser en tout et non pas être avide, donner libre cours à ses instincts les plus débridés. Donc c'est modération qui assure après concorde, harmonie et douceur. Et puis enfin, mais encore une fois, les quatre sont indispensables, et ce qu'on appelle la justice, qui n'est pas la justice des tribunaux et des lois, même si c'est important, mais la justice qui veut dire un être juste est un être honnête, intègre, droit, qui ne ment pas, qui est cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, et qui aime la vérité. Donc c'est un beau programme, je trouve, pour une existence humaine.
Et finalement, aujourd'hui, c'est important, donc vous, en tant qu'écrivain, de revenir finalement sur ces fondamentaux et puis aussi de revenir sur toute cette mythologie de plus de 26 siècles pour finalement, aujourd'hui, où on se perd un peu, si je peux dire ça comme ça, avec l'homme un peu augmenté.
Non, on n'en est pas encore là, mais on va vers cela. Moi, la première fois que j'avais entendu cette expression « l'homme augmenté », j'avais éclaté de rire parce que je me demandais ce que ça voulait dire. Je pensais qu'on nous tirait vers le haut, vers le côté pour nous agrandir, nous faire grossir ou je ne sais quoi. Et après, quand j'ai appris la réalité du projet, j'ai beaucoup moins ri. Mais encore une fois, on peut même, avec toutes les technologies et les avancées médicales, scientifiques, etc., on peut brancher, cloner, etc., on peut faire vivre en effet peut-être un individu beaucoup plus longtemps, mais de toute façon, ça ne changera rien à son élévation morale ou à son aspect, enfin, s'il reste en friche. La question pour moi et pour tout être qui se dit moral, et c'est pas être sinistre qu'être moral, mais c'est-à-dire s'orienter vers un idéal de beauté, d'honnêteté, de bonté, de vérité, pour tout être qui a et tout être a ce sens moral en lui, pour tout être qui a ce sens moral, donc cette dignité. En effet, la question n'est pas de vivre 300 ans, mais de vivre bien, de vivre de façon bonne et juste. Et ça, tous les philosophes de l'Antiquité l'ont déjà dit. Hein, la belle vie, la bonne vie, ce n'est pas la durée, mais c'est celle qui se conforme à la vérité ou à la beauté ou au bien. Donc l'homme augmenté, ce sera une prouesse extérieure et ça ne fera pas des gens meilleurs et donc ça ne fera pas une société meilleure ni le paradis sur terre. C'est bien ça la grande différence. Parce que les vertus, un être qui pratique les vertus, donc il y a une vie morale, c'est pas pour lui, c'est pas une décoration, c'est pas pour avoir l'air d'être bien, parce que la vertu est plutôt discrète, mais à ce moment-là, ça rayonne sur les autres, et si chacun pratiquait au mieux ses vertus, en effet, la société irait très bien, quel que soit le régime politique.
Et à contrario, dans votre livre, il est aussi expliqué tout au long, finalement, de votre ouvrage aussi, que les vices, à travers les 26 siècles qui nous séparent finalement de Socrate ou ce genre de choses, les vices, ça reste toujours un peu les 7 péchés capitaux avec l'orgueil, etc.
Oui, alors bien sûr, les chrétiens, puisque le christianisme a récupéré ces 4 vertus qu'ils ont appelées cardinales, mais ce ne sont pas des vertus spécifiquement chrétiennes, puisqu'elles existent des siècles avant, mais ils ont en effet aussi dit que l'orgueil, l'avarice, etc., ils ont baptisé péchés capitaux, mais de fait, tout est regroupé, moi je dirais, sous le contraire de la vertu de tempérance, et l'intempérance, donc le contraire de la tempérance, eh bien, c'est l'avidité, la convoitise, et qui s'exprime de toutes les façons. Ça peut être en effet, j'envie le voisin, ou j'envie telle et telle chose, je veux dominer sur, j'exploite y compris la planète, donc l'avidité, l'intempérance, c'est vraiment la source de ruine et destruction de soi et puis des autres.
Alors peut-être quelques mots sur une belle phrase de conclusion qui se trouve dans votre ouvrage. Donc vous dites à un moment donné, la connaissance et la pratique des vertus constituent un rempart face aux sirènes médiatiques qui ont pour loisir de diffuser des pseudos...
Des conseils de bien-être, etc.
C'est ça.
Ce que j'écris, oui, alors moi je me sens enfin féroce, j'ai une parole libre, mais je me sens féroce pour tous ceux... J'ai l'impression que chacun peut-être de nous aime bien se bercer d'illusions. Et il y en a qui profitent de ça, comme on dit que certains profitent...
avec le développement personnel.
Avec les sentiments, etc. En effet, toutes les recettes de bien-être, de bonheur, vous savez, comment devenir riche, célèbre, aimé, chouchouté, etc. Mais c'est illusoire. Bien sûr, on se laisse prendre à cela, mais on s'aperçoit très vite que ça ne marche pas. Puisque le bonheur, c'est... Il y a des instants de bonheur, heureusement, mais on n'est pas, ce n'est jamais un état durable. Tant qu'on est sur cette terre, tout est fugace, hélas, tout est fugace. Donc, moi, tous ceux qui, trompent les gens, moi, je n'aime pas ça, ceux qui trompent les gens, qui jouent avec les sentiments ou qui égarent les personnes en leur faisant miroiter des choses qui sont absolument factices, puisque, par exemple, en France, on peut avoir toutes les recettes les livres sur le bonheur, le bien-être, etc. On continue de bien absorber, tranquillisant et autres. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas. Et donc, je ne comprends pas pourquoi certains gourous ou imposteurs continuent de vendre ces choses-là. Voilà, ce sont des nourritures qui n'apportent rien ou même qui empoisonnent.
Et si je peux me permettre aussi de rebondir par rapport à ceci qui n'est pas forcément dans votre bouquin, il y a aussi de plus en plus de maladies psychiques ou ce genre de choses qui n'existaient pas, entre guillemets, avant aussi.
Tout à fait. Et là, on peut aussi se poser la question, est-ce que ce sont des nouvelles maladies ou est-ce que on dit que ce sont des nouvelles maladies ou de nouveaux maux de l'âme, par exemple, afin de vendre une méthode ou un médicament. Ça, c'est aussi troublant d'imaginer ça. Hein, que ce soit pour les enfants, comment dit-on, pas turbulents, mais quelque chose comme ça, et après on va vous donner le remède efficace pour calmer soi-disant l'enfant. Moi, je me souviens un jour, je voyais dans une pharmacie, c'était écrit un moment, une publicité dans la pharmacie, un moment de tristesse passagère, n'hésitez pas, prenez telle chose. On se dit, mais qui dans la journée ou dans une semaine n'a pas l'humeur un peu morose ou une tristesse, parce que la vie, l'existence est faite de cela. L'existence est faite de moments heureux et puis de difficultés. Elle est faite de rencontres très belles et puis aussi de trahisons. L'existence, une belle vie, moi je trouve, une belle existence humaine, ce n'est pas que du bonheur, comme on dit, mais justement, c'est l'entièreté des moments joyeux, des moments plus difficiles, des épreuves et des victoires, des tristesses, en effet, des émerveillements. Il y a tout dans cette existence. Et ça, c'est une vie belle, riche, entière, pleine.
Votre livre est très positif et très bienveillant, puisqu'en fait, à la fin de cet ouvrage, on en ressort quand même un petit peu avec le sourire en disant, bon ben finalement, personnellement, on n'est pas totalement perdu. Peut-être vous auriez peut-être un conseil plus particulier donc dans cet ouvrage où il y a beaucoup, beaucoup d'histoires et d'anecdotes, peut-être quelques éléments qui vous a surprise aussi dans toutes vos recherches.
Alors, déjà, merci pour ce que vous me dites, parce que si on ressort avec, si c'est réconfortant, du moins roboratif, moi, c'est ce qui me donne envie. Moi, le seul conseil, moi, tout ce que je peux dire ou écrire, c'est toujours pour rappeler à chacun son immense liberté. Voilà. Personne à lui dire ce qui est justement bon pour lui, son bonheur et ceci et cela. Donc de réveiller en chacun sa voix particulière et aussi rappeler que jusqu'à plus ample informé, on n'a qu'une existence. Donc, et même s'il y en avait d'autres après, on a déjà celle-ci. Donc tant qu'on a cette existence, eh bien, on a son jardin à cultiver. Et ce jardin, au départ, selon d'où on vient, où l'on est, etc., on a un jardin petit ou on a un grand jardin, il est plus ou moins bien, le climat est plus ou moins bon ou difficile, mais chacun a à cultiver son jardin et à le faire de façon, ce n'est pas moi qui ai inventé cette image, hein, et chacun a à le faire à sa façon. Et à chaque fois, que ce soit un tout petit jardin ou un grand parc, l'important, c'est pas qu'il soit grand ou petit, mais qu'il soit, qu'il pousse, qu'il soit fleuri, qu'il donne des fruits et qu'il donne envie aussi aux autres d'aller, de venir s'y promener ou d'en cueillir les fruits. C'est ça qui est magnifique. Donc la liberté, en effet, de chacun, que chacun a à faire de sa vie quelque chose d'unique. Nous sommes uniques et irremplaçables. Ça, c'est vraiment peut-être l'unique message important à l'époque où on ne parle qu'en thème de généralisation, de clonage, de on fait tout ceci, on dit tout cela. Non, l'être humain est unique. On a tous une voix unique, des lignes de la main ou des empreintes justement uniques. Donc c'est ça qui est merveilleux. Donc ça demande, ça nous rend notre dignité. Et donc la dignité, il ne faut pas la laisser en friche, en effet. Il faut vraiment exploiter et faire exploiter cette liberté qui est nôtre.
Votre ouvrage est disponible aux éditions Salvator. Donc, votre dernier ouvrage s'intitule donc Le Jardin des Vertus. Peut-être, est-ce que vous avez déjà d'autres idées pour un prochain ouvrage qui sortirait très vite ?
Oui, mais je ne le dirai pas parce que tant que le livre n'est pas terminé, tant qu'il n'est pas accepté, tant que je ne le vois pas imprimé, là je fais vraiment mon Saint-Thomas, tant que je ne le vois pas imprimé, je ne le dis à personne, je n'en parle pas, je vis tout ça dans le secret le plus total pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la naissance de l'enfant.
merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de temps sur les ondes de Radio PFM.
Merci à vous, c'est très très aimable, je suis très touchée et très contente aussi de participer à cette émission.